François Bernard.
Notre reportage tout de suite sur le fleuve Niger qui est au centre du quotidien et de la tradition des villageois riverains. Pourtant, ces pêcheurs traditionnels constatent depuis plusieurs années une baisse de la ressource en poissons. Et pour essayer d'enrayer le phénomène, par une gestion plus raisonnée de la pêche, ils se sont organisés en association. Mais les changements sur l'environnement se font à long terme et les pêcheurs pourront-ils voir les retombées positives de leur action? Enquête sur place de notre reporter Agnès Rougy.
Réserve de biosphère en Afrique de l'Ouest, l'environnement au quotidien.
Ici, ils vivent que de la pêche. Hein. Et tous, il y a jusqu'à 8 villages de leur région qui sont tous des pêcheurs. Bon, là, ici, maintenant, comme la pêche, ça ne donnait pas grand-chose, ça fait qu'ils se sont donnés à cultiver les champs, à faire la petite élevage et tout ça. Donc. Parce que même parmi les pêcheurs, ils sont spécifiques et ils tuent les hippopotames, le lamantin et les crocodiles, les caïmans, tu vois, les gros crocodiles. Et donc, du coup, même les autres villages qui sont des pêcheurs, quand ils ont des difficultés avec le fleuve, qu'il y a une autre espèce qui est en train de les déranger, eux, ils n'ont pas pu l'achever, ils viennent pernicher vers eux et ils leur expliquent que voilà, on a tel problème, c'est eux qui vont aller maintenant. Ou bien ils vont leur donner des pouvoirs, comme ça, ils vont aller pouvoir achever cet animal.
Et oui, le fleuve Niger est bien au centre du quotidien des villageois et de leurs traditions. Pourtant, ces dernières années, les difficultés ont poussé les pêcheurs à s'organiser pour gérer plus durablement les ressources naturelles. L'association Kérofiti a donc vu le jour, en partie grâce au travail du géographe nigérien Amadou Bouraïma, avec les pêcheurs de cette réserve de biosphère, pour les aider à surmonter les problèmes d'écologie présents et à venir. Et avant de remonter le fleuve jusqu'au village de Bumba, nous avons rencontré Amadou Bouraïma.
Bon, c'est clair qu'on est dans un contexte nouveau. Ce contexte, bon, il faut faire avec aussi les changements climatiques, avec la dégradation générale de l'environnement, qui fait que les anciennes pratiques ne peuvent pas être conservées, au risque de détruire pratiquement tout le patrimoine qu'on a conservé jusque-là. Donc, il est clair qu'à ce niveau, il fallait des pratiques nouvelles, des pratiques innovantes, et qui sont de nature à pouvoir moins dégrader, pouvoir conserver la faune sauvage et à satisfaire sur le plan alimentaire notamment les populations.
Comment ont germé les idées qui ont été des forces de proposition vis-à-vis des populations, Amadou Bouraïma?
Bon, moi, mon idée, hein, c'est de voir au niveau des populations riveraines, quelles sont les ressources partagées, les ressources les mieux partagées. Et ces ressources se retrouvent en gros, tournent autour de l'eau, tournent autour de la végétation, notamment les produits de cueillette, tournent autour de la pêche, des activités donc de pêche. Donc il fallait, pour moi, identifier ces activités qui sont largement partagées. Une fois que ces activités sont partagées, j'essaie de voir les acteurs, chacun dans sa parcelle de responsabilité. Et comment est-ce que ces activités sont menées avant et quelles sont les transformations qu'ils observent actuellement et pourquoi ces transformations? Donc je passe des heures à discuter avec les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant et que maintenant ils ne peuvent plus faire. Voilà, quel rendement ils avaient sur ce milieu qu'ils n'ont plus maintenant. Et une fois que tout ce travail est fait, on essaie de construire avec les populations et comment est-ce qu'on peut désormais accroître les rendements ou alors abandonner certaines choses qui, manifestement, ne peuvent plus se faire dans ce contexte actuel. Donc, les réseaux éco-fonctionnels dont je parle tournent autour donc, de ces éléments du milieu naturel qui sont valorisés progressivement par la population, d'une manière ou d'une autre, et comment faire en sorte qu'on puisse continuer cette activité tout en ayant à l'esprit que bon, le souci de conservation demeure fondamental. Donc, c'est un peu dans cet esprit que je travaillais et je pense que les populations ont vite compris. On a vite compris quand on dit que la pêche ne peut plus se faire comme elle se faisait avant, parce qu'il y a certaines espèces ou certaines tailles qu'on ne peut plus pêcher. Mais là, les populations ont vite compris, il fallait permettre donc la régénération de l'espèce. Mais bon, les populations ont accepté.
Bonjour monsieur, c'est vous. Je peux connaître votre nom? Bonjour, Agnès Rougier, Radio France Internationale. Oui. Ça va?
Ça va.
Qu'est-ce que vous pêchez ici dans le fleuve Niger?
Au fleuve Niger, il y a...
Kala.
Environ 120 espèces qui sont des poissons, oui. Mais lesquels on connaît le nom la plupart couramment, c'est le capitaine, le silure, la tilapia, la carpe, et poisson chien. Le poisson chien, pardon, qui a des dents comme le chien aussi. Mais oui, et qui est... Bon, voilà.
Il aboie.
Regarde, c'est ça, hein.
C'est pas qu'il aboie, mais il mord. Et il mord. Et la plupart des jeunes qui se trouvent dans les marécages, dans les fleuves, comme ça, qui n'ont pas de slip, ça les prend la pénis.
Il est grand, c'est des grands poissons.
Grand.
Vraiment. C'est-à-dire combien, quelle taille?
Ça peut faire 1m50.
1m50?
1m50, oui. Et ça a des dents qui vont jusqu'à 10 cm si tu veux. Quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Et quand ça prend d'un coup, quoi, tout est parti, ça coupe.
Et ça se mange?
Oui.
Ah. Ça se mange. Donc il vaut mieux les pêcher?
Oui. Et surtout quand c'est les petits, ça, les gens n'aiment pas les pêcher. Du coup, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup des arrêts. Il y a beaucoup d'arrêts dans les petits. Mais quand il est grand, maintenant, les arrêts là deviennent des grosses arrêts. Et du coup, tu peux les prélever dans la chair. Comme ça, tu peux manger la chair.
D'accord. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon?
Ah, très bon. Ah, vraiment bon et gras aussi, quoi. Parce que ça chope n'importe quoi. Ah, tu vois, c'est le poisson qui est là.
D'accord. Voilà un frigo dans lequel vous gardez vos... Waouh!
Tu vois les capitaines.
Waouh!
Tu vois?
Énorme!
Ben oui!
Énorme! Et là, magnifique! Ah, le silure, c'est celui qui est au bout. C'est le plus. Ah oui, qui a des grandes barbiches, ouais. Une moustache.
Tu vois, ça, c'est
mais il faut lutter pour rapporter ça. C'est difficile, non?
Oui. Seulement les hamissons là qui les
a. C'est les hamissons qui les a chopés. Tu vois.
Et comment vous. Après ça, c'est vous qui remontez à la force des bras?
Oui.
Et ça pèse combien, ça?
Bon. Ouais, mais tu l'as, on a fait.
15 kilos.
Oui. Et ça, vous allez les vendre, ceux-là, c'est pas pour vous?
Oui, on les a vendus.
Là, ils sont vendus, ils attendent leur, le marchand.
Cette espèce comme ça, elle est interdite, intégralement interdite à capturer celui qui est un petit qui ne fait pas plus de 5 kilos. À partir de 5 kilos, tu peux le capturer. Mais s'il fait moins de 5 kilos, tu n'as pas le droit de le prendre. Mmh.
C'est vous le rejetez kilos, alors s'il est tout petit, vous le rejetez.
Obligatoirement, s'il n'est pas mort, tu le rejettes.
Mmh. Et même mais le petit poisson, on peut fumer ça pour mettre dans les paniers. Parce que si ce n'est pas maintenant qu'on ne trouve pas des poissons bien là, donc on fume. Si on est bien fumé, donc on peut aller au marché avec. Parce qu'une panier, ça va faire 30 à 35 000. Parce qu'il y a les jeunes des Nigériens qui vont venir pour acheter ici.
Vous pêchez comment? Avec quel système? Vous avez des filets? Ça ressemble à quoi?
Oui, on a des filets longs. Et des filets birgui là qu'on appelle.
Ah, c'est l'épervier. Il y a aussi un autre aussi qu'on fait tracer et qu'on prend le boucle et on tire. Je dis c'est les deux systèmes de pêche qui fait que les poissons ne se multiplient pas. Parce que si les poissons ils font leurs œufs dans l'eau et qu'il y en a l'épervier qui est là, il a touché, il a ravagé tous les œufs. On ne voit pas les œufs, mais ils sont déjà déplacés de leur place. Donc ça veut dire que ces œufs-là pourris. Et il ne va pas avoir de poissons parce que les vieux ne vont pas se closer. Mmh. Et du coup, donc, si l'autre filet aussi a passé, c'est pareil. Et en même temps, les gens ne font pas attention à ne pas capturer les petits poissons. Et du coup, ils prennent les gros et les petits, donc ça fait que ça ne multiplie pas. ça fait qu'il y en a moins de monde, c'est ça un peu.
Voilà les familles sont là-bas.
Ah oui,
et on les lance.
À la lance aussi.
Oui,
on va voir les outils.
Oui, oui, on y va voir les outils.
Tu vois
là,
ça?
C'est les armes.
Comment vous dites?
C'est des lances,
c'est ça?
Oui. C'est des lances, c'est des armes comme à tirer des poissons.
Quand c'est des gros poissons comme ça qu'on ne peut pas tirer par des filets, c'est comme des capitaines qui pèsent 50, 100 kilos, 200 kilos comme ça, on les lance ça. Après maintenant, ils cassent le morceau, la flèche elle perd avec, mais celle-là, elle reste avec ça. Celle-là, c'est la flotteur.
D'accord, ça c'est un flotteur.
C'est un flotteur qui fait que le poisson ne va pas aller dans l'eau.
Ah.
Il va rester sur la surface comme ça, après ils vont le tirer avec jusqu'à le choper. Et sinon aussi pour la chasse de grands mammifères aussi aquatiques, comme genre la matin aussi, c'est avec qu'on le chasse. Même si c'est l'hippopotame, c'est avec qu'on le chasse aussi. Et du coup, ça fait qu'il ne va pas loin, l'hippopotame.
Pour chasser l'hippopotame, ça vous arrive de chasser l'hippopotame?
Oui,
bon.
Auparavant, pas maintenant, c'est avec ça qu'on l'utilise pour tirer les hippopotames.
Avant. Et surtout même maintenant, quand il y a des hippopotames qui font des dégâts avec l'utilisation, ils vont pour l'abattre. Décrocher, donc c'est le
ça a décroché, une fois que c'est rentré, il ne peut pas sortir.
Quand ça rentre, donc ça fait que l'animal, dès qu'il essaye de s'enfoncer dans l'eau, avec le flotteur qui lui fait... Ça fait attire, ça refuse d'aller dans l'eau, donc ça lui blesse. Et du coup, il est obligé de se monter en surface. Et du coup, il ne va pas loin et ça va à travers le flotteur, il sait qu'il n'est pas loin, donc il ne chope pas près. Et là, c'est des hamissons, des différentes hamissons qu'ils ont là-bas.
C'est que pour des gros poissons, ça, parce que c'est des gros hameçons. Hein.
Oui, c'est pour des gros, parce qu'ils font que la pêche des gros poissons.
On m'a dit aussi qu'il y avait moins de poissons aujourd'hui dans le fleuve. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des idées sur la façon de faire pour qu'il y ait plus de poissons? Parce que sûrement, c'est parce qu'on attrape les trop petits poissons. Qu'est-ce que vous pensez faire? L'association a décidé de faire quelque chose?
Les gens faisaient la pêche comme ils veulent, quoi. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de remarque, il n'y a rien. Et du coup, ça fait que les petits, les grands, tous collectés. Et du coup, tu vois... Il ne va pas avoir de petits, parce que s'il n'y a pas de petits, comment il va avoir de grands?
Mais maintenant, comme on a une bonne idée avec l'information là qu'on nous a fait, on montre tout. Donc on est d'accord sur ça. Maintenant, nous, même que les pêcheurs, nous ne veut pas celui qui peut aller de l'eau là pour trapper petit du poisson. C'est interdit. Maintenant.
Et oui. Vous-même, vous vous occupez que ce soit respecté?
En tout cas, parce que si même nous allons voir l'endroit où on peut faire un petit marigot là, on peut chercher des petits poissons là pour nous mettre là-bas. Jusqu'à, voilà, 2 ou 3 ans comme ça, tu vas voir que on a fait le changement. En tout cas.
Le grand problème, c'est qu'auparavant aussi, c'est pas tout le monde qui est pêcheur. Hein. Mais maintenant, tout le monde est pêcheur. C'est le grand problème maintenant. C'est pour cela,
tout le monde s'est donné la
pêche. Oui. Maintenant, c'est le problème là qui amène les diminutions des poissons là. Maintenant, tout le monde est pêché. Pelle, Gourmanche, Yoruba, Haoussa, Zarama, tout. Tout le monde est pêcheur maintenant.
Il faut bien que tout le monde se nourrisse.
Oui.
Okay. Mais bon, ça vous pensez là, ça va changer avec les décisions qui ont été prises
Ça va changer, oui ou non. Si on a vu que ça va changer, on va les garder comme ça.
Okay.
Les pêcher avec les filets qui a des grands doigts et non les petits doigts. Durant 3 ans maintenant qu'on a gardé ça. Si ça donne un peu de changement, on va continuer à les faire. Si ça ne donne pas de changement, on va laisser pêcher comme auparavant.
Ah, parce que pour l'instant, vous n'avez pas vu le changement, mais ça prend du temps quand même.
En plus, avant, dans l'eau là, il y a un endroit qui peut prendre 30 ou 35 mètres de profondeur. Mais maintenant, ça forme. Ça, il y a le sable qui vient
et ferme. Ça sent sable.
Oui, ça sent sable.
Ça veut dire qu'il y a aussi plus l'assemblement du fleuve. Qui a
le fleuve sans sable.
Il fait moins d'espace pour les poissons et tout ça. Et, du coup,
et donc, il se déplace peut-être.
Voilà, pour chercher un endroit calme.
Profond et calme aussi.
Est-ce que les pêcheurs s'entendent bien avec le reste de la population, avec les éleveurs, etc.? Ou est-ce qu'il y a pu y avoir des conflits suivant suivant les différentes activités des habitants du village et des hameaux. J'avais lu quelque part que s'il existait des conflits, en tout cas, c'était le maître des eaux qui les résolvait. Le maître des eaux, qui est-ce le maître des eaux?
C'est ça le président de l'association.
C'est
de
lui.
Carofiti.
D'accord, c'est lui qui est le maître des eaux.
Ouais.
Et c'était un poste déjà traditionnel avant l'association.
Oui, oui, avant l'association, il dit que c'est quelque chose qu'il a hérité, ça. Il a hérité ça à travers son père. Son père aussi a hérité ça à travers son père. Donc c'est un héritage de fils en fils, fils en fils, fils en fils, jusqu'à jamais. Quoi.
D'accord. Et quel est le rôle alors du maître des eaux? Qu'est-ce qu'il doit faire au sein de la société entière et de l'ensemble du village?
Son rôle, c'est que quand il y a des gens qui viennent, des fois il y a des organisations de pêche qui se font des fêtes de pêcheurs comme ça, et là il y a des jours qu'on fait sortir des éléphants, ils peuvent sortir hippopotames ou bien crocodiles, et quand aussi les gens désirent avoir des poissons ou bien tel que quel que soit comme la mammifère aquatique, comme la mammifère aquatique comme le lamantin, tu vois, il faut qu'on le voit. Et quand lui, on le voit, et facilement, il peut montrer ça aux gens et il peut sortir ça parce que c'est déjà des gens qui se communiquent avec lui et tout ça, donc du coup, avec l'Africaine.
Si l'association a plusieurs parties, comment ça marche entre les différents groupes de l'association? Je ne sais pas, vous vendez les poissons au marché, par exemple, ça rapporte de l'argent. Cet argent, il est investi où?
Quand ils ont gagné l'argent, la recette qu'ils gagnent avec l'association, maintenant, s'il y a une réunion qui est convoquée par un des membres du bureau, comme ça, de l'association, donc c'est là-dedans, ils prennent, ils donnent la personne pour le frais de route. Comme ça, la personne fait frais de route avec deux. Hein. Et aussi, des fois, ils font des dons aussi, comme déjà s'il y en a un malade ou quelque chose comme ça qui n'a pas les moyens. Donc, dedans, on lui fait aussi des dons. Comme ça, on lui donne crédit. Et quand il arrive à avoir la santé, ils reviennent. Maintenant, ils remboursent. Et quand il y a aussi des gens qui n'ont pas de pirogue ou quelque chose comme ça, ils peuvent prendre aussi dedans. On lui donne. Il fait la pirogue. Après, quand il arrive à avoir de la pirogue, de l'argent, ils remboursent ça aussi. Donc, c'est des petites aides comme ça, ils font avec l'argent, toujours.
La solidarité,
oui.
En plus, encore, notre légende de notre projet qu'ils ont jusqu'à Niamela, le jour qu'ils vont venir, parce qu'ils vont nous enfermer après les deux ou trois jours comme ça, c'est dans l'argent là, dans le caisse, on peut profiter pour voir telle somme pour chercher de quoi manger.
Pour leur faire, les organiser à manger ou quelque chose comme ça, pour l'accueillir, quoi, tu vois, pour l'accueil, donc pour la prise en charge. Donc tout ça,
parce
c'est
que
dans la
on
caisse.
Fait deux ou trois chemins, on fait des cotisations. Parce qu'une personne peut donner 250 ou bien 300 ou bien 500 ou plus de temps en temps. Mais dans les caisses, voilà.
Ok, chacun suivant ses moyens.
Voilà, chacun avec ses moyens. Donc avec l'argent là, nous pouvons faire beaucoup de choses.
Ouais.
Ouais.
On m'avait dit que grâce à l'association Carofiti, on avait créé une boutique pour acheter des intrants et des céréales.
Ouais. On est en train d'acheter même. Pour y stocker jusqu'à l'année prochaine.
Des comprimés aux animaux, tout.
Et parce que la plupart, ils font ça parce qu'en saison pluvieuse, ici, on a des difficultés.
Oui.
Les difficultés qu'on a, c'est tout, c'est au niveau des céréales. Les gens, ils récoltent moins. Et du coup, ça finit. Et donc, quand il y a un stock, tu n'as pas du sou, tu peux aller dans la banque, tu prends en crédit. Quand tu as fait la récolte, tu rembourses. Et donc, du coup, c'est une aide aussi qui fait beaucoup de gens aussi. Et en même temps, tu vois, là-bas, ils ont dit qu'on paye en même temps des graines pour le jardin ou quelque chose comme ça. On met dedans celui qu'on veut. Il vient, il paye et il fait ses...
Parce que en ce temps qu'on n'a pas fait les boutiques, là, nous pouvons acheter des sacs à 20 ou 23 000 comme ça. Mais maintenant, nous pouvons voilà, par le commerçant, comme ils le veulent. Donc c'est obligé.
Okay,
mais maintenant, nous pouvons réussir à 12 000 ou 23 000 par un sac. Nous pouvons stocker ça tout.
Vous pouvez en acheter à une plus grande quantité, donc discuter
voilà.
Les prix.
Donc maintenant, ils ont eu l'idée de faire ça, une banque céréale. Comme ça, ils vendent ça à bas prix. Et comme ça, ils prennent tous les 1000 avec eux, ils gardent les stocks. Quand la saison pluvieuse arrive, ils vendent ça. Tous les gens de l'alentour, de la sous-région peuvent venir payer ça. Pas que les pêcheurs ou bien non. Tu es pêcheur ou pas, tu es villageois, tu es dans le village, dans la commune ou pas, ils vendent.
Si on est parti cultiver, on revient, donc il n'y a pas de à manger. Si tu as 1 000 francs, tu vas aux boutiques. On peut te donner deux bols avec ton golo là, qu'on pèse 75 francs, bol. Donc, à commerçant, si tu étais parti, il va dire que non, on ne pèse pas comme ça, c'est un sac à 20 000 ou 15 000. Ouais. Donc, toi qui as 2 000 frais, ce que tu vas manger.
Ouais, en gros, okay,
tu ne fais pas prix. Donc, c'est pour cela que nous avons l'idée de faire ça. Ouais, on est là.
En se regroupant, les pêcheurs de Bumba, Karekopto, Bossia ont réussi à impliquer les autres communautés et à insuffler une dynamique. De ce point de vue, c'est une réussite. Mais attention, fragile. Si les bénéfices de leur action tardent à venir, s'ils subissent une année de mauvaise récolte, il faudra bien qu'ils nourrissent quand même leur famille, même si c'est au prix de l'environnement. Cette émission est terminée. Merci à Ama Abdou pour les traductions.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Reportage d'Agnès Rougier, mis en onde par Alain Bleu. Jeudi, nous irons avec eux au Mali. Et demain, pas de reportage, puisque nous parlerons du Probo Koala, ce navire qui a déversé des déchets toxiques dans des décharges ivoiriennes. Nous reviendrons sur les faits avec deux invités proches du dossier. Nous essaierons de voir comment va se dérouler le procès qui débute en octobre à Londres.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
TerraTech, où il est aujourd'hui question de téléprésence immersive. Explication Dominique Dezonnet. Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Comment aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Polycom propose la téléprésence immersive, un nouveau système de visioconférence.
TerraTech, actu.
En bref, actu.
Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard, initiateur du projet Tech for Food. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Connaissez-vous les smart grids?
Fini les pannes d'électricité. Les nouveaux réseaux sont implémentés de capteurs reliés à un réseau informatique, ce qui les rend intelligents. Les capteurs vous informent en continu de l'état du réseau et aussi de votre propre consommation. En fonction de la production d'électricité, vous pouvez par exemple décider de recharger ou non la batterie de votre voiture. De la même manière, les producteurs peuvent identifier les pics de consommation et surtout les éviter.
Et bientôt, on espère introduire les productions intermittentes d'énergie renouvelable au réseau électrique.
TerraTech, l'entretien.
Climate Group est une organisation internationale à but non lucratif qui encourage les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour aider Climate Group, la société Polycom propose une solution.
Son nom, téléprésence immersive. C'est un nouveau système de visioconférence. Plus de déplacements pour les employés qui peuvent faire des réunions avec des interlocuteurs basés un peu partout dans le monde depuis leur bureau.
La téléprésence pourrait réduire de 5 à 20% les voyages d'affaires à travers le monde. Philippe Billet est le directeur général de Polycom et il nous explique comment ça fonctionne.
Alors, la téléprésence sont des salles très très luxueuses qui permettent de reproduire un contexte de réunion face à face avec un traitement du son et surtout une image en taille 1. Le concept à la base, c'est d'avoir une table de réunion et qu'on soit chacun assis d'un côté de la table de réunion. Et on rapproche ces deux tables à travers la technologie.
Alors, les vraies économies, elles interviennent où?
Ce qu'on constate aujourd'hui déjà, c'est que toutes les entreprises ont des projets aujourd'hui de visioconférence ou de téléprésence visant à porter une alternative au voyage. Donc, il y a une préoccupation environnementale, il y a une préoccupation budgétaire, et donc la visioconférence et la téléprésence s'inscrivent là-dedans. Selon le Climate Group, qui est donc un groupe de travail international, aujourd'hui, ils estiment que l'économie peut être réalisée de 5 à 20% suivant la nature des entreprises. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une amélioration de la technologie et surtout une facilité d'utilisation qui fait qu'on va casser les barrières mentales chez les utilisateurs qui sont, c'est compliqué à utiliser, l'image n'est pas belle, le son n'est pas adéquat, etc. Aujourd'hui, on peut considérer qu'un système de visioconférence individuelle, si on fait une location, ça va être un budget de l'ordre de 250 euros par mois. À ramener au prix d'un billet d'avion Paris-Nice, on voit que les économies sont substantielles.
Comment ça s'intègre dans nos dispositifs informatiques?
La visioconférence, le ticket d'entrée, c'est une application sur son PC qui va permettre, avec une webcam, de dialoguer. Ensuite, on va passer sur des systèmes de visioconférence dédiés. Et puis ensuite, la téléprésence.
C'est dans le coup, c'est dans le vent de se dire on fait de la visio, on fait de la téléprésence, vu qu'à un moment donné, il y a des recommandations sur l'environnement et qu'il faut faire des économies de déplacement et donc d'énergie.
Bah déjà, à la base, la visioconférence, c'est mal vécu dans les entreprises. Pourquoi? Les miles. Les gens préfèrent se déplacer pour créditer leurs miles. C'est ça. L'écueil numéro un, il est là. La préoccupation carbone, tout le monde l'a, plus ou moins. Et c'est vrai qu'on ne réfléchit pas à chaque fois qu'on monte dans l'avion à la pollution qu'on va générer.
Il y a un domaine qui est extrêmement concerné par ces histoires et de téléprésence et de visioconférence, et bien c'est le domaine de la santé.
On a de plus en plus de salles d'opération qui sont équipées de systèmes de visio pour qu'un chirurgien puisse opérer en étant guidé par un de ses confrères qui est dans un autre hôpital. On a des applications aussi qui sont destinées aux malades pour éviter les déplacements inutiles, les frais de sécu, les frais d'essence, etc. Aujourd'hui, on a un exemple avec l'hôpital de Saint-Brieuc qui a mis en place un système de visioconférence pour la dialyse, donc qui vise à avoir les patients qui ne viennent plus à l'hôpital de Saint-Brieuc, mais qui vont dans un lieu donné faire leur dialyse, et ensuite les praticiens qui sont à Saint-Brieuc vont pouvoir entrer en contact avec eux, surveiller le processus de la dialyse, tout ce qui va être effet secondaire de type dermatologique. Et seulement quand il y a un vrai souci, à ce moment-là, la personne sera rapatriée à l'hôpital.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des zones du monde où ça fonctionne beaucoup mieux qu'ailleurs ?
Les pays qui sont les plus dynamiques, c'est les pays scandinaves, qui eux, pour des raisons évidentes de climat ou de distance, ont choisi depuis très très longtemps la visioconférence.
Vous l'aurez compris, TerraTech c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Rendez-vous demain. TerraTech reçoit un spécialiste de l'informatique verte. Notre invité Sébastien Jeunesse de France Nature Environnement en première partie pour commenter l'actualité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Sophie Janin, à Laura Podorowski, Antonin Dulé et Damien Grélier qui m'ont aidé à préparer et à produire C'est pas du vent. Prochain rendez-vous demain, bien sûr. Même planète, même heure. En langue Lao, aujourd'hui, avec Souk. RFI en Lao, c'est quotidien entre 11h et 11h30, temps universel. À demain.